CFM spéciale élection.
Je ne fais pas du tout politique, monsieur.
Alors là, pas du tout.
Moi, je vote pas. Je m'en fous des élections.
Après, c'est la politique, je ne connais rien.
Au contraire, je suis très intéressé par les élections parce qu'elles conditionnent toute notre vie dans les villages, surtout dans les villages.
Et nous avons les mêmes emmerdements à la campagne.
Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous et on peut avoir une action beaucoup plus efficace.
À l'occasion de la campagne électorale, retrouvez vos candidats dans les émissions de CFM.
Yann Puech, vous êtes candidat du nouveau parti anticapitaliste à l'élection législative pour la deuxième circonscription de l'Aveyron. Et comme CFM reçoit tous les candidats à cette élection, donc nous vous recevons. Et la première chose qui m'a frappé dans vos documents de campagne, que j'ai examiné pour préparer un petit peu notre entretien, c'est que vous vous en prenez à notre président de la République en indiquant qu'il ne procède pas aux abrogations des contre-réformes de la droite. Alors qu'est-ce que c'était que ces contre-réformes et que devrait-il abroger ?
Oui, bonjour. Donc, dans un premier temps, c'est pas s'en prendre à François Hollande gratuitement, mais c'est qu'on pense qu'aujourd'hui, la politique qu'il veut suivre ne va pas dans le bon sens. Et en particulier, on en a pour illustration ces annonces aujourd'hui sur la réforme des retraites, par exemple, qui était symbolique du quinquennat de Monsieur Sarkozy. L'annonce qui a été faite aujourd'hui, c'est revenir à la retraite à 60 ans pour les carrières longues. Donc à partir de là, nous, on, en tant que symbole, on aurait souhaité un détricotage complet de la loi sur la réforme des retraites pour un retour à 60 ans. Parce que l'annonce qui a été faite aujourd'hui par Jean-Marc Ayrault ne nous satisfait pas. En tout et pour tout, concernerait 150 000 personnes. C'est bien pour ces 150 000 personnes-là, mais pour nous, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on réclame un retour au 37,5 annuités et un départ à 60 ans.
Et tout de même des annuités payées.
Voilà, 37 et demi.
Pour le secteur public. Est-ce qu'il y a d'autres contre-réformes de la droite, puisque c'est comme ça que vous avez appelé
oui,
ça?
Oui, les contre-réformes, on parlait de la loi Bachelot, par exemple, pour les territoires et santé. C'est une réforme qui a mis à mal l'hôpital public et qui doit être là aussi supprimée. Il y a le dogme de la suppression d'un fonctionnaire sur deux, par exemple, aussi. Là aussi, on attend que François Hollande se prononce là-dessus. Il y a ensuite tout ce qui concerne les lois de sécurité quotidienne, la LOPCI 1, la LOPCI 2, sur lesquelles de nombreuses personnes se sont mobilisées et se sont battues. Donc là aussi, c'est des réformes qui doivent aujourd'hui tomber si François Hollande en a la volonté.
Alors, c'est pas très étonnant pour le nouveau parti anticapitaliste. Dans votre programme, on comprend qu'il y a beaucoup de structures de production. Dans la production, il n'y a pas que l'industrie. D'ailleurs, hein, les banques, ça produit quelque chose qui serait nationalisé et qui serait confié à leurs propres salariés et aux usagers. C'est-à-dire, je suppose, aux clients, quoi, d'une certaine manière. D'une part, est-ce que c'est possible, dans quel secteur plus particulièrement, et comment peut-on mettre ça en œuvre? Parce que c'est peut-être pas évident de substituer, même pas l'État, à des actionnaires, de substituer des comités de salariés et d'utilisateurs.
Oui, alors sur votre première partie de la question, sur les nationalisations, aujourd'hui nous on avance l'idée qu'il y a une urgence sociale et climatique, et cette urgence sociale et climatique, pour y répondre, il faut qu'on nationalise par exemple le secteur bancaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si comme François Hollande l'a dit, la finance est son ennemi, le premier objectif c'est de désarmer cet ennemi-là, et on le désarmera en nationalisant, en recréant un grand secteur bancaire nationalisé sous contrôle des salariés et de la population. Après, sur ce qui concerne les écologie, là aussi, il y a une urgence. Donc, nous, on avance l'idée de recréer un grand pôle public de l'énergie en nationalisant Areva, en faisant en sorte qu'EDF, aujourd'hui, soit sous contrôle de ses salariés et de la population, parce qu'on voit bien que les choix qu'il y a à faire en termes écologiques et les choix énergétiques sont des choix qui sont cruciaux pour les années à venir. Et là aussi, on veut qu'il y ait un regard de l'ensemble de la population là-dessus. Ça ne peut pas se décider simplement entre ministres et conseil d'administration de ces entreprises-là. Nous, au niveau de l'organisation après concrète, les salariés ont des organisations qui les représentent. représente dans ces entreprises-là, les syndicats. Donc on est pour donner davantage de pouvoir aux syndicats et adjoindre à ce pouvoir-là une sorte de contre-pouvoir de la société civile, de la population, parce que là aussi, on a eu ces débats-là, on les a eu en particulier après l'explosion d'AZF à Toulouse, sur voir est-ce que, parce qu'on s'est retrouvé dans une situation compliquée où d'un côté les salariés voulaient garder leur outil de travail, ce qui est normal puisque c'est leur gagne-pain, et de l'autre côté les populations environnantes qui disaient il faut fermer l'usine. Donc nous, l'idée qu'on a avancée, c'est d'arriver à faire discuter ces deux corps-là et à trouver un terrain d'entente qui serait se questionner sur qu'est-ce qu'on produit et comment on le produit, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a, en particulier dans l'énergie, toutes les productions qui sont mises en place ne répondent pas forcément aux besoins sociaux. Donc c'est pour arriver à mettre en adéquation ces besoins sociaux et ces productions-là qu'on demande.
Et j'ai l'impression que c'est plus un contrôle, une introduction des citoyens que des consommateurs.
Oui.
Tous sont concernés aussi.
Oui, c'est plus une approche citoyenne que consommatrice, évidemment. Parce que pour nous, que ce soit en particulier l'énergie, là, on parle de biens communs. Donc, pour nous, ce ne sont pas des marchandises comme les autres. Donc, c'est pour ça que c'est un contrôle citoyen et pas de consommateur.
Alors, dans les facilités que vous vous offrez, parce qu'on va venir après à ce que vous envisagez de distribuer, il faut appeler les choses par leur nom, mais parmi les facilités que vous comptez vous offrir, c'est la suppression pure et simple, mais j'ai peut-être mal compris, mais la suppression pure et simple de la dette que vous évaluez à 160 milliards. C'est pas rien, ça peut donner un peu d'air de supprimer la dette. Mais alors déjà, comment fait-on ? À quel point la supprime-t-on ? Et est-ce que vous ne craignez pas aussi d'avoir quelques problèmes si, par malheur, vous devez quand même encore emprunter quelques mois ou quelques années plus tard ?
Donc, sur la suppression de la dette, oui, vous ne vous trompez pas. On demande aujourd'hui, nous, l'annulation de la dette, purement et simplement, parce qu'on juge qu'elle est illégitime. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, à qui on doit de l'argent, ce sont les mêmes qu'on a exonérés fiscalement. C'est-à-dire qu'on aura fait des cadeaux fiscaux qui leur ont permis de dégager des revenus qui ont été réinvestis dans la dette publique. Donc, ces gens-là sont gagnants sur les deux tableaux et on pense que ça a assez duré.
Est-ce qu'il s'agit seulement de gens ?
De gens ou d'institutions ? C'est la même chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, les banques françaises ont bénéficié en 2008 d'un plan de relance et l'argent qui a été réinjecté dans ces banques-là a servi à nourrir la spéculation. C'est-à-dire qu'on leur a prêté, les États leur ont prêté à 2 ou 3 % et ces mêmes banques ont reprêté ensuite à l'État 7 à 7 % à des taux autour de 6 à 7 %. Donc on voit bien que là aussi, il y a eu un siphonnage. On a fait basculer les dettes privées vers la dette publique et aujourd'hui, on se retrouve avec une soi-disant crise de la dette publique, mais tout ça, c'est que des montages financiers. Donc c'est pour ça que nous, on part de l'idée qu'elle était légitime. On demande déjà dans un premier temps qu'il y ait un audit citoyen sur cette dette, c'est-à-dire que les gens à grande échelle s'emparent des comptes de la nation, parce que c'est important qu'on ait un regard là-dessus aussi, et pas seulement des échos d'experts. Donc on part déjà sur cet audit et on annule la dette qui est toute la partie qui était légitime. Et oui, en effet, ça permet de récupérer 150 milliards par an, 150 milliards qui peuvent ensuite servir à développer les services publics, à augmenter les salaires et ainsi de suite.
Ben, si je ne me trompe pas, ça permet de récupérer les 60 milliards par an d'intérêt de la dette, et puis une fois pour toutes, les 120 milliards de dette
voilà.
Qu'on ne remboursera pas.
Voilà.
Donc par an, ça fait 60 milliards.
Après,
c'est déjà pas mal. Mais...
Un pays comme l'Argentine, par exemple, a été amené à annuler totalement sa dette sans que ça plonge le pays dans les. Du moins, sans que ça plonge. Il y a eu des secousses, mais aujourd'hui, on voit que le pays arrive à rebondir et à repartir de l'avant.
Alors justement, c'était la deuxième partie de la question. Si jamais vous devez encore emprunter, vous ne craignez pas de trouver porte close ?
Mais après, au niveau de tout ce qui est emprunt, le principal problème aujourd'hui, et on le voit là avec la crise que traverse la zone euro, c'est que la Banque Centrale Européenne aujourd'hui n'a plus la possibilité, n'a pas la possibilité de prêter directement aux États. C'est-à-dire que la Banque Européenne, sur les derniers temps, là, elle a prêté 5 milliards d'euros aux banques, et ces 5 milliards d'euros ont été prêtés aux banques qui ont reprêté aux États. Donc là aussi, avec un jeu de taux d'intérêt qui fait que les États se retrouvent pris à la gorge. Donc nous, on demande à ce que la Banque Centrale Européenne puisse prêter directement aux États, là aussi. Et c'est auprès de la Banque Centrale Européenne que les États iront se refinancer.
Que ce soit en prêtant en banque ou en prêtant directement, ça s'appelle la planche à billets, en fait.
Hein, oui.
Et donc, ça mène à l'inflation et à être payé un jour ou l'autre
pas,
en monnaie de singe.
Pas forcément, parce que quelqu'un qui n'était pas forcément révolutionnaire, un économiste comme Keynes, il disait il faut euthanasier les rentiers, et pour les euthanasier, c'est l'inflation. Hein. C'est l'inflation avec une indexation des prix sur... une indexation des salaires sur les prix. Pour que les salariés aujourd'hui se retrouvent pas pénalisés. Mais oui, en effet, ceux qui vivent de leur rente, eh bien, ils se mettront au travail.
Y compris les retraités, alors.
Non, les retraités.
Alors, le dernier volet, mais il est vaste, c'est ce que j'ai appelé la distribution à laquelle vous procédez, et effectivement, on ouvre grand les portes et les fenêtres, hein, puisque vous suggérez de porter le SMIC à 1 700 €, d'augmenter tous les salaires d'au moins 300 €, tout ça en passant à 32 heures et en maintenant ces salaires-là. Donc déjà, ça distribue. Vous parlez de créer... 1 million d'emplois et principalement de fonctionnaires, hein, apparemment, donc il va vous falloir quand même pas mal d'argent. Les salaires, il va falloir que ça se répercute sur les consommateurs. Alors déjà, c'est le premier volet de la question. Après, on va voir ce que vous distribuez encore d'autres. Mais sur ces coûts, sur ces dépenses, comment vous les voyez? Les consommateurs vont pouvoir encaisser ces augmentations de salaire du privé, et le contribuable va pouvoir encaisser ces créations de fonctionnaires.
Pour nous, déjà, c'est une réappropriation au-delà d'une distribution, c'est-à-dire qu'on récupère notre dû. Aujourd'hui, on part du constat que sur les 30 dernières années, il y a 10 points de PIB qui ont basculé du travail vers le capital. Donc déjà, si on arrivait par des mesures qui sont l'augmentation régulière des salaires, leur indexation, par exemple, sur les prix à la consommation, revenir à une échelle mobile des salaires, serait pour nous déjà une première mesure qui permettrait d'estomper un petit peu, de récupérer dans ces 10 points-là. Et après, sur tout ce qui est augmentation de salaire, création de postes, c'est partir d'un principe simple, c'est que la France est un pays riche qui a les moyens d'avoir une politique sociale ambitieuse. Et donc, à partir de là, eh bien, on se donne ces moyens-là, parce que c'est pas normal que les entreprises du CAC 40 continuent, comme chaque année, à nous annoncer des bénéfices records, alors que le taux de pauvreté en France augmente. Aujourd'hui, c'est 8,5% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, pour nous, ça, c'est plus acceptable. Et donc, il y a un rapport de force à engager avec les classes dominantes, et ça passera par un conflit qui sera nécessaire, parce que on voit bien que le hold-up qui a été réalisé, les possédants aujourd'hui, c'est pas en allant frapper à leur porte avec un grand sourire qu'ils vont ouvrir les coffres. Donc à un moment donné, on est pour une confrontation majeure contre ces classes-là.
Alors il y a une autre façon d'être, je dirais, libéral, d'ouvrir les fenêtres, c'est vous indiquez que il faut régulariser tous les sans-papiers, et qu'il faut annuler un certain nombre de lois sur l'immigration, et en même temps, c'est frappant, vous recadrez tout ça tout de même dans l'Europe.
Oui. Parce que pour nous, la solution aujourd'hui, la crise qu'on traverse, la solution sera européenne, un minima. C'est-à-dire que nous, on n'est pas, et c'est pas une question d'ouvrir les fenêtres ou les portes, c'est simplement qu'on est des militants internationalistes qui pensons que la solution, hein, se réglera, les problèmes qu'on peut rencontrer nous quotidiennement se régleront à l'échelle de l'humanité. C'est-à-dire qu'on peut pas croire aujourd'hui que avec
l'humanité, vous semblez limité à l'Europe quand même.
L'humanité avec un premier temps, mais l'Europe, parce que l'Europe est un point stratégique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Europe reste la zone la plus riche au monde. C'est quand même, on n'est pas à la périphérie du système, on est au cœur du système, et on pense que si on arrive à changer les choses dans son cœur, il y aura des répercussions sur l'ensemble de la planète. C'est pour ça qu'on table aujourd'hui sur l'Europe, et on voit bien avec les mouvements, que ce soit en Grèce, en Espagne, en Irlande, on commence à avoir des liens, on se rencontre régulièrement. Là, la semaine dernière, il y avait les mobilisations à Francfort. Donc, des liens qui sont en train de se créer via les forums sociaux européens, des discussions qui sont menées à l'échelle de l'Europe, qui vont dans le dans lesquels on avance dans le même sens. Donc on pense que oui, il y a une solution européenne, et c'est pour ça qu'on n'est pas pour nous se replier derrière les frontières de la France en pensant qu'on peut regarder le monde s'écrouler autour de nous, mais qu'on tiendra bon derrière notre drapeau bleu blanc rouge. C'est pas notre conception de la politique.
Eh bien, on est au terme de notre entretien, du quart d'heure que CFM prête à tous les candidats à l'élection législative. Et donc, je vous remercie, Yann Puech, vous êtes le candidat du nouveau parti anticapitaliste pour l'élection législative sur la deuxième circonscription de l'Aveyron. Merci.
Je vous remercie.
CFM à Villefranche, 90.2. 90.2.